France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le crash de Munich, les fantômes de Manchester United. Le stade d'Old Trafford n'est ni le plus ancien ni le plus grand du pays. Pour autant, c'est l'un des plus prestigieux et des plus craints au monde. Parce qu'on joue aussi contre des fantômes à Old Trafford. Si vous faites le tour du stade, en arrivant du côté de la tribune sud, vous tomberez sur une étrange horloge dont le cadran carré indique toujours le 6 février 1958 à 15h04 et une inscription « Munich ». C'est la Munich Disaster Clock, l'horloge du désastre de Munich, parce que le temps s'est arrêté à Old Trafford. Le 6 février 58 à 15h04, donc, l'avion transportant l'une des plus belles équipes de football de l'histoire s'écrase en Bavière. 23 morts, parmi eux 8 joueurs. C'est la fin d'une équipe et le début d'une légende qui scelle le mythe de tout un club. Aujourd'hui, Manchester United, dont le dernier titre européen remonte à l'année 2008, avec Ronaldo, est un peu au cimetière des éléphants, comme la Juventus de Turin. Mais les grands clubs ne meurent jamais. United reviendra, c'est sûr. Notre invité aujourd'hui, Eric Bilderman, ancien journaliste de l'équipe, spécialiste du football anglais, il a vécu à Manchester. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Manchester United contre Arsenal, les Red Devils face aux Gunners. L'affiche de la première ligue anglaise ce soir du 1er février 1958 est alléchante. Elle oppose celles qui sont alors considérées comme les deux meilleures équipes du championnat. Quel enjeu! Surtout pour Manchester United, qui compte bien remporter un troisième titre consécutif. Et puis surtout, le club est engagé en Coupe d'Europe. Alors désormais, ses joueurs savent qu'on les regarde. L'affiche était alléchante, le match sera historique. D'abord par l'extraordinaire spectacle offert par les joueurs des deux équipes. Pour ceux qui y assistent, il s'agit de l'un des plus grands matchs jamais joués. En première mi-temps, les Red Devils de Manchester jouent une partition endiablée. Ils dominent les Gunners londoniens, de façon éclatante. Duncan Edwards, l'un des joueurs les plus doués de sa génération, ouvre le score d'une frappe puissante aux abords de la surface de réparation. Il a 22 ans et un immense talent. Le deuxième but est signé Bobby Charlton, 21 ans, qui vient tout juste d'être titularisé et qui sera la grande vedette de la Coupe du Monde de 66, remportée par les Anglais à domicile. Tommy Taylor, qui du haut de ses 26 ans est l'un des plus vieux de l'équipe, finit d'achever ses adversaires avec un troisième but. Mais Arsenal, galvanisé par la qualité de ses rivaux, réplique dès le début de la deuxième mi-temps et il marque 3 buts en 3 minutes. Inouï. Il faut imaginer l'ambiance dans le stade. Ce n'est pas électrique, c'est atomique. Mais c'est à croire qu'il en faut plus pour impressionner les jeunes de United. Avec une fougue enivrante, ils reprennent l'avantage, notamment grâce à un second but de Taylor. C'est du délire. Et au coup de sifflet final, Manchester s'impose 5-4 au terme de ce qui restera l'un des plus beaux matchs de l'histoire du foot anglais. Un moment mis en scène dans le film United de James Strong, sorti en 2011.
Hey, deux buts pour tes débuts, Bobby. Je t'avais dit de faire à ta manière.
Vous êtes que des gamins. Comment vous pouvez gagner comme ça alors que vous êtes que des gamins?
Edward Charlton, Taylor, trois joueurs qui incarnent parfaitement le football offensif mis en place par leur entraîneur, Matt Busby. Le célèbre journaliste sportif du Times, Geoffrey Green, verra dans ce match une épitaphe pour une équipe que les dieux aimaient trop. Mais alors que le public célèbre cette jeune génération surdouée, il ne se peut qu'il le voie dans cette équipe pour la toute dernière fois. Évidemment, il ne le sait pas qu'il la voit pour la toute dernière fois. Pourtant, d'ici 5 jours, la moitié des joueurs seront morts. Manchester United, c'est un club un peu à part dans l'histoire du football. Créé en 1878 par les cheminots de la compagnie ferroviaire locale, il est resté indissociable de l'identité ouvrière d'une ville pauvre et asphyxiée par la fumée noire des cheminées d'usines. Nous sommes en pleine révolution industrielle. mais dans les années 50, dans le nord de l'Angleterre, l'après-guerre n'offre pas beaucoup de perspectives réjouissantes. Le Royaume-Uni est carrément ruiné par son effort de guerre. Ce n'est qu'en 2008 qu'il soldera le prêt accordé par les Américains pour son redressement. Bref, c'est pour ça qu'il y a le foot en Angleterre, pour oublier. Et à Manchester, plus qu'ailleurs, c'est une religion. Dans cette ville, le club les a fait tous rêver. C'est United, comme en témoigne ce reportage d'époque diffusé en 2019 dans L'Œil du Tigre.
Gamin oublié d'une société malade du chômage, ils vivent dans la rue. Ils jouent au football pour tuer le temps en attendant le samedi, jour des grands matchs. Dans ces quartiers lépreux de la banlieue ouvrière, les enfants de Manchester vivent leur révolution. Ils ont leur radio et leur musique, la punk music, celle de la violence et de la révolte. Passionnés de football, les teenagers des bas quartiers de Manchester ont leurs idoles et leurs clubs favoris. Ils ont choisi pour la vie United. Ici, à Old Trafford, dans ce stade qui accueille 55 000 spectateurs par match, ils sont chez eux.
United n'est pas le seul club de foot de Manchester. Au départ, dans les années 1900-1940, c'est davantage son concurrent que la population lui préférait, Manchester City. Une rivalité éternelle, dont la couleur bleue jurait diablement avec les Red Devils. United ou City, rouge ou bleu, c'était souvent la première question qu'on posait quand on rencontrait quelqu'un à Manchester. Il fallait être City ou United, genre « Êtes-vous Beatles ou Rolling Stone ?» D'ailleurs, on peut être les deux, mais pour les clubs de foot, deux surcroît d'une même ville, non, on est dans un camp ou dans un autre. Et il se trouve que l'allégeance de la population mancunienne commence à changer en faveur de United au début des années 50, peu après l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe, un certain Matt Busby. Quand il débarque à Manchester en 1945, il a 46 ans. Il est grand, charismatique, têtu et, en bon écossais, féru de football. Cet ancien mineur avait joué pour Manchester City avant d'accepter le poste de coach à United. Et il hérite d'une équipe très moyennement convaincante. Un club de fin de tableau qui enchaîne les allers-retours entre la première et la deuxième division. Ils montent et redescendent tellement qu'on parle de la yo-yo team. Et puis le stade, en mauvais état. Et les caisses, qui sont vides. C'est peu dire que les joueurs ne se bousculent pas au portillon pour venir jouer ici. Mais là où d'autres auraient vu un amas de problèmes, Matt Busby, lui, voit du potentiel, autrement dit l'avenir. Et puisqu'il ne peut pas acheter de super joueurs, eh bien il va les fabriquer ici même, à Manchester. Écoutons-le expliquer sa philosophie dans une archive extraite du documentaire « The United Way » de Matt Hodgson.
C'était une époque incroyablement heureuse. Ces garçons arrivaient au club à peine sortis de l'école. On vivait avec eux, on les élevait, on les surveillait, on s'occupait d'eux, on les entraînait. On faisait absolument tout ensemble. On était comme une famille.
Aujourd'hui, toutes les grandes équipes ont leur propre centre de formation pour façonner leur diamant brut dès le plus jeune âge. Mais à l'époque, c'est du jamais vu. Et ça paye. Comme le résume Claude Bolli dans un article pour la revue Footballs en 2023, sous la direction de Busby, United met en place un réseau de recrutement juvénile très méticuleux. Entre 1956 et 1966, aucun club ne peut rivaliser avec eux en matière de réussite sportive dans les compétitions de jeunes. Dans l'effectif de 24 joueurs de l'équipe qui remporte de fort belle manière le championnat 55-56, 13 joueurs sont arrivés au club entre l'âge de 15 et 16 ans. Parmi cette génération dorée, il y a Duncan Edwards. Timide et charmant colosse des Midlands, il est décrit dans un article de l'équipe en 88 comme fils d'un ouvrier sidérurgiste qui semblait lui-même fondu dans l'acier inoxydable des Midlands. À 16 ans, quand il intègre United, son surnom tombe très vite, le Tank. Tout un programme. L'esprit de famille, plus un jeu flamboyant et spectaculaire, c'est ça, l'esprit de Manchester United. C'est l'identité du club. Avec les Busby Babies, ce n'est pas que du foot, c'est un grand spectacle. D'anciens membres du staff de l'équipe le racontent dans The United Way.
Après les horreurs de la guerre, tout le monde voulait reconstruire sa vie. Manchester United a débarqué avec ces gamins qui jouaient un football fabuleux. Tout le pays s'est entiché d'eux.
Ils admiraient leur façon de jouer, mais aussi le meneur d'hommes qu'incarnait Matt Busby. Beaucoup de gens s'identifiaient à eux au Royaume-Uni.
Those Busby Babes for that unmatched post-war record in Cup and League football.
À partir du milieu des années 50, les efforts portent leurs fruits. United remporte le championnat d'Angleterre deux années de suite, en 56 et en 57. Les Mancuniens sont aussi finalistes de la FA Cup, la plus ancienne compétition de foot du monde. Mais Busby voit les choses en grand. En février 55, une nouvelle compétition est créée par le journal L'Équipe, la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de l'actuelle Ligue des champions. En tout cas, l'idée plaît beaucoup à l'entraîneur de Manchester. Contrairement à la fédération anglaise qui voit dans ce tournoi européen un cirque, une distraction inutile. En 1955, alors que Chelsea, meilleure équipe du championnat anglais, est invitée à participer à la Coupe d'Europe, la Football League lui interdit de participer. Oui, mais voilà, à Chelsea, il n'avait pas Matt Busby. L'Écossais ne se fera pas dicter sa conduite par la fédération, lui. Dès 1956, l'année où les Busby Babes terminent en tête de la Ligue, Manchester United participe à la Coupe d'Europe. C'est le premier club britannique à disputer un match européen contre les Belges d'Anderlecht en l'occurrence. Ils vont jusqu'en demi-finale où ils s'inclinent face au Real Madrid, imprenable à l'époque. Et ça va durer longtemps. Pas grave, ça n'est que partie remise. En 57, United est plus fort que jamais. L'équipe se qualifie nouvelle fois pour la Coupe d'Europe et affronte au premier tour le Dukla Prague. Le 4 décembre 1957, les Red Devils l'emportent 3-0. Si la victoire est éclatante, le retour est chaotique. United doit être en Angleterre le samedi pour jouer contre Birmingham, mais à cause d'une météo catastrophique, l'avion est dérouté vers Amsterdam. Après des heures de ferry et de train, les joueurs atteignent Birmingham in extremis. L'équipe, épuisée, concède un match nul. Matt Busby est furieux. Ça ne peut pas se reproduire, ça n'est pas professionnel. En vue des quarts de finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il demande donc à Mr. Hardeika de la Fédération d'aménager un peu les règles. Une scène reconstituée dans le film United.
Que puis-je faire pour vous, Monsieur Busby ?
Je voulais me renseigner sur la possibilité de déplacer un match contre Hampton Wanderers le samedi 8.
Je crains que ce ne soit pas possible.
Eh bien, le match retour à Belgrade est mercredi et c'est un long trajet.
Le règlement de la Ligue exige que vous soyez de retour en Angleterre au moins 24 heures avant le coup d'envoi.
Ce que ce club a accompli en Europe est bon pour le pays. Bon, pour la réputation de notre football.
Le calendrier de la Football League ne sera pas pris en otage par les caprices de vos gosses, M. Busby.
Les Red Devils voient donc et doivent donc se plier, comme les autres, au calendrier du championnat national. Le match à Belgrade est prévu le jeudi 5 février 58. Ces joueurs doivent être de retour en Angleterre le 7 pour jouer le 8 contre Wolverhampton. Le timing est serré, infernal même. Mais pour l'Écossais, l'aventure européenne vaut le coup. Son équipe vaut le coup. Alors, pour éviter les mauvaises surprises et faire en sorte que le voyage soit le plus rapide possible, Manchester United affrétera son propre avion, un Airspeed Ambassador de 47 places. Un luxe inouï pour ces gamins de Manchester, tous issus de milieux modestes. Ah, faut voir leur tête, leur sourire quand ils descendent de l'avion qui les conduit à Belgrade. C'est un peu les mêmes qu'ils auront sur leur visage à la fin du match qui les oppose aux Red Stars, 3-3. Vu qu'ils ont gagné le match aller à domicile, c'est suffisant pour se qualifier pour les demi-finales. C'est fou. Le rêve continue pour les Busby Babes. Le lendemain matin, rendez-vous est donné en bas de l'hôtel avant de se mettre en route pour l'aéroport. Mais Johnny Berry ne retrouve plus son passeport. Le départ est donc décalé d'une heure. Il fait froid, il neige, la météo est exécrable. Mais il n'y a pas grand-chose qui pourra entamer le moral des troupes. En dépit d'une gueule de bois s'est prononcée, due à une bien légitime célébration de la qualification la veille à l'hôtel, les Reds se sentent intouchables.
Allô, Bonne ? Oui, alors est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cet accident d'avion ?
Bien sûr. Eh bien, la catastrophe s'est produite en Bavière, à 300 mètres environ de l'aérodrome de Munich-Riem. Que l'appareil venait de quitter après une escale. Il s'agissait d'un appareil de la BEA qui venait de Belgrade et se dirigeait sur Londres. 44 personnes étaient à bord, dont les vedettes de football de la fameuse équipe anglaise de Manchester et une dizaine de journalistes de la presse anglaise sportive. L'appareil venait donc de décoller lorsque, ne parvenant pas à prendre suffisamment d'altitude, il a heurté une maison d'où a été retiré un cadavre et s'est immédiatement écrasé, provoquant un incendie communiqué aux maisons avoisinantes.
Shadows pass my window, dark and lonely forms. Memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear it? Sighs and listless tread. Shapeless dreams I try hard to remember. Gray December. Couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment? But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined, shadows of a love I can't remember, now an ember, gray December.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le crash de Munich ou les fantômes de Manchester United.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Pour rentrer de Belgrade, l'équipe de Manchester United doit d'abord faire escale en Allemagne afin d'y faire le plein de carburant. Il existe une photo des joueurs de Manchester à Munich en train de monter dans l'avion censé les ramener en Angleterre ce 6 février 58. Elle a été prise par l'un des journalistes qui voyageait avec l'équipe. On les voit en file indienne, devant l'avion. Les premiers sont déjà en train de monter à bord et se tournent pour regarder l'objectif. Ah, ils rayonnent avec leurs impairs au col remonté et leurs chapeaux un peu baissés qui leur donnent un vrai style. Avant United, aucun d'entre eux n'avait jamais voyagé à l'étranger. Et encore moins un avion privé. Et quel avion ? On l'a dit. Un British Airways Airspeed Ambassador, bimoteur de luxe, baptisé Elizabethan par la British Airways Company. C'est ce qui se fait de mieux, ou presque. À l'image du pilote, James Stain, 36 ans, ancien de la Royal Air Force, à l'impeccable dossier. D'ailleurs, il ne semble pas impressionné par la météo allemande du jour. Le brouillard, la neige, le froid, il en avait d'autres. Alors il fait le tour de son avion, tranquillement, pour effectuer les dernières vérifications, s'assurant notamment qu'il n'y a pas de gel sur les ailes. Et puis en voyant la neige fondre et ses gouttes tomber au sol, il confirme que les conditions sont réunies pour le décollage. À l'intérieur de l'appareil, les passagers s'installent. On sort les livres, les cartes à jouer, on attend le décollage. Il est 14h31 quand les moteurs se mettent en marche. L'avion accélère, s'élance sur la piste et ralentit, glisse sur le sol mouillé, puis s'arrête. Le commandant Tain prévient la tour de contrôle. Décollage avorté, je répète, décollage avorté, demandons permission pour deuxième tentative. L'accord est donné, l'avion s'élance à nouveau, mais la situation se répète. Après une accélération, l'appareil freine, glisse sur quelques dizaines de mètres et s'arrête. Une scène reconstituée dans leur documentaire Munich Air Disaster pour la chaîne National Geographic.
Munich 609 Zulu Uniforme, nous avortons ce deuxième décollage.
Bien reçu. Vous pouvez faire demi-tour.
Nous sommes désolés, mais un léger problème technique nous oblige à retourner au terminal pour effectuer un nouveau contrôle. Il n'y a rien d'alarmant et nous espérons pouvoir
décoller rapidement.
Alors qu'ils descendent de l'avion pour rejoindre leur terminal, les gamins de Manchester n'ont plus l'air aussi détendus que tout à l'heure. Personne ne bronche, mais les regards sont un peu plus inquiets, et de plus en plus inquiets. Et puis cette neige qui continue de tomber, on dirait que le brouillard s'intensifie. En fait, ils sont nombreux à se dire que le vol va être annulé, et à se demander au passage ce que va dire la Fédération s'ils sont en retard. Le jeune Duncan Edwards fait même envoyer un télégramme à la propriétaire de son appartement pour l'avertir de son retard. « All flights cancelled, flying tomorrow. Tous les vols sont annulés, retour demain. » Sauf que ce n'est pas ce qui va se passer. Une dizaine de minutes seulement après s'être installé dans le terminal, tout le monde est invité à remonter à bord de l'avion. Dans le film Munich Remembered, la tragique histoire des Busby Babes de Manchester United, le gardien, Harry Gregg, se souvient de l'atmosphère durant ces instants.
Je crois qu'à ce stade, on était tous effrayés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde avait peur à ce moment-là. Personne n'a été assez courageux. Personne n'a eu assez de courage pour se lever et dire « j'y vais pas ». J'ai l'impression que si quelqu'un, n'importe qui, s'était levé pour dire « j'y vais pas », je crois que personne n'y serait allé.
Tout le monde se rassoit dans l'avion qui se prépare pour son troisième décollage. Preuve que personne n'est rassuré. Certains joueurs, comme Tommy Taylor et Duncan Edwards, changent de place pour s'installer à l'arrière de l'appareil. Plus sûr, paraît-il. Le commandant de bord, lui, a l'air confiant. Avec le mécanicien de vol, il pense avoir compris ce qui n'allait pas lors des précédentes tentatives. En vérité, les moteurs se sont emballés à cause d'un mélange de carburant trop riche, un phénomène connu chez ce type d'appareil, notamment en altitude. Or, l'aéroport de Munich se situe à plus de 500 mètres de hauteur. La solution ? Ouvrir les gaz plus doucement, graduellement. C'est en tout cas ce qui est prévu. Donc, pour la troisième fois, l'appareil s'élance. Le départ est un peu plus lent que les fois précédentes. Les moteurs accélèrent progressivement. L'avion dépasse les deux tiers de la piste. Or, normalement, les appareils n'arrivent pas jusqu'ici. Ils devraient déjà avoir décollé. Le nez du bimoteur se soulève enfin. Et alors que tout le monde semble se dérouler correctement, enfin tout se déroule correctement, tout le monde est calme, un problème survient. Les roues se bloquent dans la neige mouillée qui recouvre la dernière partie de la piste. Un détail qui avait échappé à tous, puisqu'aucun avion ne doit en principe arriver si loin sur l'aire d'envol. Alors l'avion pile, dérape et se met à glisser à toute allure. Hors de contrôle, il défonce les barrières au bout de la piste de décollage et continue sa course folle jusqu'à percuter une maison située à 300 mètres de là. L'aile gauche de l'avion est arrachée. Le cockpit s'écrase contre un arbre quand le côté droit du fuselage pulvérise un hangar dans lequel du carburant est entreposé. Il est 15h04. Une seconde de silence, puis tout explose. L'ancien gardien de United, Harry Gregg, raconte.
Je me suis assis tout au fond de mon siège. Je me suis préparé à ce qui pouvait arriver. Je me rappelle avoir pensé à ce moment-là que j'allais être tué. Je ne reverrai jamais ma famille. Je ne reverrai pas mes parents. Je me rappelle m'être dit, je vais mourir en Allemagne et je ne parle pas allemand. J'ai cru que j'étais mort d'un coup. Il a fait tout noir. Je me suis dit, s'il fait tout noir, c'est que je dois être en enfer.
Du blanc partout. La neige qui tombe. Le brouillard qui étouffe les bruits du métal qui se tord et qui trouble la vision de la carcasse de l'avion, entouré d'un halo de lumière orangé, presque feutré. Il y a quelque chose d'onirique, de surréaliste dans cette scène. C'est encore l'instant du choc. Les cris se font attendre. Mais ils arrivent. Et avec eux, la réalité se rappelle à tous. Et l'horreur apparaît dans toute sa netteté. L'avion éventré. Les morceaux d'épave de chaque côté. Les affaires éparpillées. Les corps calcinés. Les vivants fracassés. Harry Gregg se réveille encore attaché à son siège à une dizaine de mètres de l'appareil. Les secours en provenance de l'aéroport arrivent pour tenter de sauver ceux qui peuvent l'être. À défaut d'ambulance, on place les blessés à l'arrière d'une camionnette utilisée d'habitude pour transporter le charbon. L'hôpital de coin du coin se transforme en zone de guerre, tant au regard du nombre de blessés que de la gravité des blessures. Matt Busby, l'entraîneur, à ses côtés a les côtes cassées, un poumon perforé et les jambes en lambeaux. Duncan, jeune prodige, de multiples fractures et des reins qui lâchent. Il se battra pendant 15 jours, mais succombera à ses blessures. Matt Busby, lui, ne s'en remettra jamais. Albert Scanlon, l'ailier de 22 ans, a le crâne fracturé et les jambes cassées. Johnny Berry a le bassin et la mâchoire fendues. Petit à petit, on fait les comptes, les vivants et les morts, et ceux qui sont entre les deux. 21 personnes sont mortes sur le coup au moment du crash, témoignage sinistre de la puissance de l'impact. Parmi eux, 8 joueurs, Roger Byrne, le capitaine, Tommy Taylor, Geoff Bent, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Liam Whelan. Et alors que les heures passent, suspendant des vies, les premières nouvelles arrivent au club de Manchester United. Jimmy Murphy, bras droit de Matt Busby, apprend le crash et la mort de ceux qu'il considérait comme ses gamins. Il revient sur ce moment dans le documentaire Munich Remembered.
Et là, ça m'a frappé. Et j'ai pensé, mon Dieu, non. Alors, je suis allé dans mon petit bureau et je me suis mis à pleurer pendant 20 minutes. Je ne pouvais pas réaliser. C'est dur de perdre des joueurs que tu as élevés, avec qui tu as vécu.
Et puis, il y a la culpabilité. Murphy était aussi l'entraîneur de l'équipe du Pays de Galles. Il aurait dû aller à Munich avec les autres. Mais occupé à la préparation des Gallois pour un match de qualification à la Coupe du Monde, finalement, il avait laissé son siège à Bert Wiley, le coach adjoint, qui meurt dans le crash. À ce moment précis, les informations sont encore incertaines sur l'identité de ceux qui ont survécu à l'accident et sur l'état exact de ceux qui sont blessés. Jimmy Murphy doit prendre les choses en main et il se rend immédiatement à Munich pour retrouver ses joueurs et obtenir des éléments à transmettre aux familles. Mais le désespoir l'accable quand il arrive à l'hôpital et qu'il constate la gravité de la situation. Il se cache dans l'une des cages d'escalier de service et il s'effondre en pleurs. Il rentre au Royaume-Uni avec plusieurs joueurs, en train et en ferry. Alors que Matt Busby et certains joueurs continuent de lutter pour leur survie à Munich, c'est l'Angleterre tout entière qui est sous le choc. À Manchester, c'est la sidération, évidemment. Comme en témoigne ce reportage réalisé au lendemain du drame.
Nous sommes devant Old Trafford et aujourd'hui c'est le cœur d'une ville en deuil. Tout le monde à Manchester, tout le monde en Grande-Bretagne a les yeux tournés ici. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris le crash hier ?
J'étais très ému comme à peu près tout le monde ici. C'est une grande perte pour nous tous à Manchester.
Je n'ai pas vraiment les mots. On a perdu de grands champions. Je suis très touché. C'était une belle équipe et je suis vraiment navré.
5 jours après le crash, le 11 février 58, l'avion de la British European Airways transportant les cercueils des victimes quitte l'aéroport de Munich pour Manchester. Il est minuit quand il atterrit en pleine nuit. L'air est glacé. Il tombe une pluie triste comme les hivers d'Angleterre savent en produire. Et pourtant, ils sont des milliers, plus de 100 000 selon le Times, à être sortis dans les rues pour accompagner le funeste cortège de corbillards qui serpente jusqu'à Old Trafford, où les cercueils des 8 joueurs seront entreposés pour que les familles puissent se recueillir. Le bilan, rappelons-le, est terrifiant. 23 morts sur 44 personnes à bord. Parmi eux, 8 joueurs. Johnny Berry et Jackie Blanchflower survivent, mais ne pourront plus jamais jouer. Matt Busby n'est pas présent pour les funérailles de ses joueurs. Il est encore à l'hôpital à Munich. Il guérira de ses blessures et reprendra la tête de l'équipe la saison d'après. Mais il ne se remettra jamais vraiment de l'accident. Il le dit d'ailleurs, à demi-mot, dans le documentaire Munich Remembered.
Why did I take the club into Europe?
Pourquoi j'ai amené le club en Europe?
Why would you go on a plane?
Et pourquoi y aller en avion?
I remember my first reaction was...
Je me souviens, ma première réaction,
never to have anything to do with football,
ça a été de ne plus rien avoir à faire avec le football.
My wife went again.
Ma femme est arrivée
come along.
Et elle m'a dit,
if these boys,
ces gamins,
had the same as passed on,
ceux qui sont morts,
they would want you to carry on.
Ils auraient voulu que tu continues. En fait, d'une certaine manière, j'étais vraiment terrifié à l'idée de revenir, de regarder le terrain, de ressentir les gens à ce moment-là. Et une fois que je me suis obligé à le faire, il y a eu un certain soulagement pour moi.
À Manchester, le foot ne s'arrête jamais, même devant la mort. On joue comme on respire. Alors assez naturellement, comme pour porter le deuil, comme pour honorer leurs si jeunes fantômes, les matchs reprennent. Le premier a lieu moins de 15 jours après le crash, à Old Trafford, devant 60 000 personnes. Nous sommes le 19 février. Jouer, oui, mais avec qui? L'équipe a été décimée. Mais Jimmy Murphy ne lâche rien. Il a 10 jours pour trouver des joueurs. Il les trouvera. Chez les tout jeunes notamment, ou dans d'autres équipes. Alors, c'est une course contre la montre qui s'engage. Stan Crowther, qui était dans le club d'Aston Villa, a signé son contrat 75 minutes seulement avant le coup d'envoi. Sur le programme du match, à la place des noms dans la composition de l'équipe, il n'y a que des espaces vides. Par respect pour la mémoire des victimes, et parce que Murphy ne savait pas que son équipe allait jouer au moment où le programme est parti à l'impression. Eh bien, un message orne le petit fascicule. « United will go on ». United gagne son match. Il ne pouvait pas en être autrement. Depuis lors, tous les 6 février, on entend résonner un chant dans le ventre d'Old Trafford, Flowers of Manchester, un hommage aux Busby Babes, repris en chœur par les dizaines de milliers de supporters qui chantent à réveiller les morts, leurs morts, de ce jour de février 1958.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le crash de l'avion de l'équipe de Manchester United en février 1958. Drame dont nous parlons avec notre invité Eric Bilderman. Bonjour.
Bonjour.
Ancien journaliste de l'équipe, vous êtes spécialiste du football anglais et vous avez vécu à Manchester. Et ça tombe bien parce que ça m'autorise à vous poser la question de savoir comment vous décririez cette ville et son rapport au football.
Écoutez, cette ville, dans les années 80-90, c'était une ville en déshérence économique, qui n'avait véritablement que deux poumons. Un poumon qui s'appelle Old Trafford, le stade de Manchester United, et le second poumon, qui n'était pas si loin d'ailleurs, le stade de Main Road, qui était le stade de Manchester City.
Ah oui.
Donc en fait, dans une ville où il n'y avait absolument rien à faire, rien à espérer, et la situation économique était terrible, il y avait un troisième lieu qui était aussi fantastique, c'était l'Hacienda, qui était la boîte de nuit où de nombreux groupes qui étaient les groupes de musique qui étaient rivaux de ceux de Liverpool, bien faisaient leurs premières armes.
D'ailleurs, il y avait un petit peu la même configuration à Liverpool, à la même époque, au stade d'Anfield Road. C'est pareil, on a là une ferveur populaire dans un milieu économique difficile, et le football est un opium du peuple, pour le coup sympathique et nécessaire.
Oui, en fait, on est là dans l'Angleterre industrielle, dans l'Angleterre ou portuaire ou industrielle du côté de Manchester. Les portuaires, c'est pour Liverpool. Et ce sont des cultures où, en fait, dès le 19e siècle, le football a été, comme vous l'avez spécifié, l'opium du peuple, c'est-à-dire qu'il fallait occuper les gens qui travaillaient dans les mines, dans les usines, sur le port, le week-end, et il fallait les occuper de telle manière à ce que, quelque part, ils ne dépensent pas tout leur argent au pub. Il y avait presque une fonction sociale et sociétale des entreprises de sponsoriser le football, de monter des clubs qui étaient souvent des clubs qui étaient issus quelque part des racines d'une entreprise pour occuper le peuple anglais. C'est pour ça aussi que les grands clubs historiques sont dans le nord-ouest et le nord-est de l'Angleterre, c'est-à-dire là où il y a une tradition industrielle.
Et c'est une culture dont les Anglais récoltent les bénéfices aujourd'hui encore. Regardez, en Ligue des Champions, je crois qu'on a déjà six équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale. Et il y a Newcastle qui est en barrage et qui a des chances de se qualifier. Donc il y a une supériorité du football anglais en club depuis longtemps, cette année, et depuis longtemps. Alors, dans le récit, on ne l'a pas raconté parce que c'est un autre sujet, mais il lui ressemble beaucoup. Il y a eu un autre crash d'avion qui transportait des joueurs de football professionnels. C'était en 49. L'avion du Torino, hein, de Turin, donc, s'écrase. 31 morts, pas un survivant. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que Manchester United. On en a beaucoup parlé à l'époque parce que le Torino était champion d'Italie. Et aujourd'hui, depuis des années et des décennies, le Torino n'intéresse personne, puisque c'est une équipe qui finit toujours au milieu de tableau en Serie A, dixième. Donc tout le monde s'en fiche un peu. N'empêche qu'ils ont connu le même drame. Je reviens à Manchester United. Que s'est-il passé pour ce club dans les années qui ont suivi l'accident ?
Il y a eu la désolation, il y a eu la reconstruction, et il y a eu l'émotion. Sur une décennie, Matt Busby, l'entraîneur qui a lui survécu au crash, est revenu entraîner cette équipe. Il avait encore deux joueurs qui, 10 ans plus tard, vont être sacrés champions d'Europe. En 1968, Bill Foulkes et Bobby Charlton. Donc, en fait, pendant 10 ans, il fallait reconstruire ce club et il y avait pour Sir Matt Busby, qui allait être anobli quelques années plus tard, la volonté non pas d'effacer, mais de rendre aux Busby Babes la gloire qui leur a été volée par cet accident. Parce que, en dehors du Real Madrid, l'arrivée de Manchester United en 1956-57 en Coupe d'Europe avec une demi-finale à la clé pour la première participation d'un club anglais contre l'avis de la fédération anglaise, eh bien, avait montré la force de Manchester United. Et en 57-58, ce club, au moment où il y a ce crash terrible à Munich, eh bien, faisait partie des favoris, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait à une finale entre le Real Madrid et Manchester United. Malheureusement, on ne la vivra jamais.
Et Manchester United va réussir à glaner quand même 3 titres de Ligue des Champions, hein, ou Coupe d'Europe des clubs champions, c'est la même chose. Alors, Matt Busby ne s'est jamais remis d'avoir perdu ses joueurs, on comprend. En particulier, Duncan Edwards. Pourquoi ce joueur-là a-t-il marqué les esprits ?
Parce que c'était le grand espoir du football anglais, bien au-delà de Manchester United, parce que c'était un colosse, c'était une force de la nature, et miraculeusement, il était sorti vivant de cet accident. Vivant, mais 15 jours d'agonie sur son lit d'hôpital, fait que pendant 15 jours, tout le monde était persuadé qu'il survivrait. Peut-être qu'il ne serait plus jamais footballeur, mais qu'il survivrait. Et donc le choc, il a été d'avoir perdu 7 joueurs d'un coup, et d'un seul coup, Duncan Edwards était seul à décéder en dehors donc de l'autre, des autres joueurs. Donc forcément, émotionnellement, tout s'est focalisé sur ce joueur, surtout que c'était le supposé meilleur joueur de Manchester United, et là-bas déjà, on le surnommait le Pelé de Manchester United.
68 ans après les faits, quasiment jour pour jour, la tragédie de Munich est encore commémorée de façon rigoureuse à Manchester. Est-ce que le drame, le crash d'avion, est identitaire pour Manchester United ?
Ah, totalement. Il est non seulement identitaire pour Manchester United, mais il a mis le club au centre de l'Angleterre et au centre du football européen, voire du football mondial. Si Manchester est au niveau du Real Madrid, alors qu'ils ont beaucoup moins de titres européens, c'est aussi et peut-être avant tout parce qu'une vague d'émotion absolue a touché cette équipe après 1958. Et donc, dans le monde entier, il y a eu une forme d'adhésion émotionnelle à ce club, d'identification à ce club. Et quand 10 ans après, vous avez 2 survivants du crash et l'entraîneur du crash qui gagne une Coupe d'Europe, et cette Coupe d'Europe, on ne la gagne pas n'importe où, on la gagne à Wembley, on la gagne donc en Angleterre, on la gagne face avec son public. Donc, tout s'inscrit dans la durée. Pourquoi ça s'inscrit dans la durée ? Parce que après Sir Matt Busby, qui va être de 1945 à 1969, pendant 24 ans, l'entraîneur de Manchester United, vous avez de 1986 à 2013 un entraîneur qui va encore
Ferguson,
durer plus longtemps,
c'est ça ?
27 ans. Alex Ferguson. Ouais. 2 coupes d'Europe, 2 ligues des champions à lui et 1 pour Sir Matt Busby.
Ouais, un des entraîneurs du siècle avec Remus Mitchell.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Eric Bilerman, récemment un article de France Info titrait « Comment Manchester United est devenu l'un des clubs les plus haïs d'Europe ». Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette phrase.
Non.
Mais pourquoi France, on a dit ça ?
Je ne sais pas. En toute honnêteté, oui. Il y a eu les années où Manchester United dominait l'Angleterre et donc finissait par être détesté en Angleterre parce que c'était un club dominant et on déteste toujours celui qui, pendant des années et des années, écrase tout. Aujourd'hui et depuis quelques années, le Real Madrid
n'est
pas véritablement...
Hein.
Ben oui, c'est un peu lassant. Et puis, si vous voulez, vous voyez toujours les défauts de ce club. Donc, du côté de Manchester United, le caractère de Sir Alex Ferguson, qui était très dur avec les médias, ben, faisait que toutes les retombées négative d'un résultat permettait aux journalistes des tabloïds de se venger du comportement de Sir Alex Ferguson vis-à-vis d'eux. Donc en cela, l'article de France Info est tout à fait juste. Maintenant, au niveau européen, si on se replace dans le contexte d'aujourd'hui, Manchester United, au contraire, c'est une équipe qu'on a envie de revoir revenir au plus haut niveau parce qu'elle nous manque. Ça fait plus d'une décennie que Manchester United est nulle part sur la scène européenne. Donc la nostalgie et l'émotion a pris largement le pas sur la rancœur ou sur la fatigue de voir ce club dominer.
Bien sûr, je disais en début de récit que Manchester United, c'était comme la Juventus de Turin. Ils sont quand même parmi les deux clubs les plus prestigieux de l'histoire du football européen. Ils sont un peu au cimetière des éléphants en ce moment. Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient nous faire penser, laisser à penser que Manchester United va mieux? J'ai vu qu'ils étaient cinquième, je crois, au classement de la Première Ligue, donc aux portes d'une qualification pour la Ligue des Champions l'an prochain.
Ouais, ils sont pour l'instant en phase de se qualifier pour la Ligue des Champions puisqu'il y a cinq places à minima pour les Anglais, voire plus. Mais aujourd'hui, on a enfin, et ce n'est peut-être qu'une embellie, on a enfin des résultats qui nous font, nous les... Alors je dis nous parce que j'ai passé tellement de temps à suivre cette équipe pendant plus de 30 ans et à la vivre de l'intérieur que je vais avouer que je suis supporter de Manchester United.
J'avais cru comprendre.
Mais, voilà. Mais vous avez, avec l'arrivée de Michael Carrick, qui est un ancien de la maison, un entraîneur qui, sur les premiers matchs, eh bien, a battu Manchester City, qui est aujourd'hui le club dominant, le club voisin. Ce n'est pas le club Oni, hein, ça ne se passe pas trop mal entre les deux clubs, mais battre City de Guardiola, eh bien, je peux vous promettre qu'à Manchester, ça fait plaisir. Et deux, Manchester United est allé s'imposer à Arsenal, et ça, c'était une bonne habitude qu'avait Sir Alex Ferguson de globalement gagner plus souvent contre Arsenal que perdre. Et souvent, on traitait, d'ailleurs, c'était Patrice Evra, le défenseur français, qui disait Arsenal est une équipe de bébés, c'est-à-dire une équipe qui jouait très bien au football, mais qui n'était pas réaliste. Et de l'autre côté, Manchester était un peu une équipe de tueurs.
Oui.
Donc là, on vient à Manchester de célébrer, je parle à Manchester United, donc les rouges, pas les bleus, on vient de célébrer donc, la victoire contre City, la victoire contre Arsenal, un entraîneur maison, et il y a une habitude de toujours mettre en avant les anciens joueurs de la maison qui occupent des postes dans l'environnement du club ou comme entraîneur. On a eu, souvenez-vous, il y a quelques années, Solskjaer, le Norvégien. Donc, on est content de revivre quelque part en famille. Manchester, si c'est une multinationale en termes de pouvoir financier, c'est un club artisanal et encore un club familial. C'est-à-dire qu'on aime vivre entre nous, c'est-à-dire avec des joueurs qui sont issus de la formation, qui sont issus de la maison et qui prennent des galons dans le club.
Alors, l'Angleterre a inventé le football contemporain. Je dis ça parce que l'ancêtre du football est italien, avec le calcio. Déjà au XVIe siècle, alors il y avait des buts, on jouait au pied, mais on jouait aussi à la main. Donc, le vrai football, hein, celui d'aujourd'hui, il est anglais. Est-ce que ça donne un statut particulier au club anglais, aux supporters anglais et à tous les Anglais? Est-ce qu'ils ont le sentiment, parce que je me souviens qu'en Coupe du Monde, enfin je me souviens pas, mais je le sais, c'était en 1930, et quand la Coupe du Monde a été créée, les Anglais l'ont soulevé en disant mais le football c'est nous quoi, on va pas se mélanger à la piétaille. Est-ce qu'il y a encore cet esprit-là aujourd'hui?
Oui, alors il y a encore cet esprit-là, c'est-à-dire que gagner un titre de Première Ligue c'est plus important que de gagner la Ligue des Champions, être champion d'Angleterre pour un supporter, par exemple, de Manchester United, c'est bien plus important que de voir l'Angleterre gagner la Coupe du Monde. D'ailleurs, quand vous regardez quels sont les supporters qui suivent l'Angleterre lors des tournois internationaux, eh bien, ce sont les supporters des clubs de D2, de D3, de D4, voire de Ligue amateur, parce que ça leur permet de vivre au niveau international, l'émotion qu'ils ne connaissent pas avec leur club et qui ressemble à ce que Manchester, à ce que Chelsea, à ce qu'Arsenal vit chaque saison. Donc, il y a quelque chose de très particulier. L'Angleterre est une île. Rien qu'avec cette définition, on se doit de comprendre qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière que les continentaux et que tout ce qui se passe sur l'île, eh bien, effectivement, est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel quand vous êtes l'inventeur du football, que vous avez la puissance financière la plus absolue, que vous avez un taux de fidélité des supporters quand vous descendez dans les divisions inférieures. Il y a 20, 30, 40 000 supporters qui viennent à des matchs sur des clubs qui n'ont aucune chance, quelque part, un jour de figurer en Première Ligue. Donc, tout le spectre est un spectre très, très spécifique, en Europe en tout cas.
Ouais. Et est-ce que le football est plus populaire que le rugby en Angleterre ?
Ah oui, oui, ouais. Le football est...
Parce qu'ils ont, une grande équipe de rugby depuis des lustres, les Anglais, donc...
Oui, non, mais complètement. Alors en fait, vous savez, c'est juste une affaire de classe sociale. C'est-à-dire que le rugby, c'est avant tout le club des universités, le sport des universités. Donc on va dire que la classe moyenne supérieure a une tendance naturelle à considérer que le rugby est un sport noble et va s'attacher à ses valeurs. Mmh. Mais le club d'essence ouvrière, d'essence populaire et la classe ouvrière et la classe populaire en Angleterre, contrairement à ce qui se passe en France, malgré la désindustrialisation, reste quand même très prégnante de ce qu'elle a vécu et de ce que l'histoire industrielle anglaise a donné comme valeur. Oui. On le voit d'ailleurs dans les guerres, dans les conflits. Je dirais que globalement, les Anglais ont toujours été durs au combat et toujours été un peuple, avec tous les guillemets du monde, mais qu'on peut dire courageux. Eh bien, ces valeurs-là, on les retrouve dans le football et qui restent le sport des pubs, le sport de la vie ouvrière. Et malgré la gentrification pour éliminer le hooliganisme avec l'augmentation des prix, avec tous les contrôles qui ont été faits, la suppression des places debout pour des places assises, l'âme essentielle du foot anglais reste populaire.
Bien, ben ce sera le mot de la fin, Eric Bilderman. Merci infiniment. Avec plaisir. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crash de l'avion de Manchester United, une émission que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Titouan Labarre.